France Culture.
Bonjour le Book Club. J'ai découvert William Faulkner avec Tandis que j'agonise, dont le flux de conscience perturbant m'avait déjà hypnotisée, et c'est vraiment ce qu'on retrouve dans Le bruit et la fureur. Je me suis sentie tour à tour enveloppée, perdue et fascinée par cette plume.
France Culture, le Book Club, Marie Richeux.
Entre 1929 et 1932, tandis que sévit encore la ségrégation raciale aux États-Unis, William Faulkner publie quatre de ses romans majeurs, à commencer par Le bruit et la fureur. Les temps sont durs pour lui économiquement. Il s'en souviendra peut-être 20 ans plus tard, en 1949, lors de sa réception du prix Nobel de littérature en établissant un fonds de soutien aux nouveaux romanciers. Écrivain incontournable du XXe siècle, il a publié de nombreux textes considérés comme des chefs-d'œuvre. Le bruit et la fureur en fait partie. On pouvait en lire une première traduction en français dès 1938 grâce à Maurice Edgar Coindreau, et les éditions Gallimard en proposent une nouvelle version grâce au travail de Charles Recourcet. Il est notre invité, aux côtés du romancier Yannick Hennel, grand lecteur de l'œuvre, pour évoquer Le bruit et la fureur. Le titre du roman emprunte au Macbeth de Shakespeare l'idée selon laquelle la vie serait une fable racontée par un idiot, pleine de bruit et de fureur et qui ne signifie rien. Tout un programme pour votre book club aujourd'hui. Bonjour Yannick Hennel.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui pour évoquer ce texte. Vous écriviez récemment que relire Le bruit et la fureur dans cette nouvelle traduction vous faisait l'effet d'un agrandissement de l'existence, comme le font la lecture des textes importants ou l'amour. Donc on a toqué à la bonne porte ?
Absolument, oui, c'est exactement de ça dont il s'agit.
Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. C'est généreux de venir parler des textes des autres. Et bonjour, Charles Recourcet.
Bonjour.
Merci de venir parler de votre nouvelle traduction pour les éditions Gallimard. C'est une traduction que vous préfacez. En ces termes notamment, traduire ce texte, c'est naviguer à l'oreille et profiter juste de rares agamis dans la tempête. Et bien entendu, trouver l'auteur aux abonnés absents. Donc on verra comment on peut faire parler Faulkner aujourd'hui. Bonjour et merci d'être avec nous. Il y a quelque chose d'inédit aussi qui est rajouté dans cette édition de Gallimard. Ça ressemble à quoi ce texte de Faulkner, écrit 17 ans après la rédaction du Bruit et la Fureur ?
L'appendice qui... oui, cet appendice, il figurait uniquement dans l'édition Pléiade jusqu'ici. Donc on en a fait une nouvelle traduction. C'est un texte que Faulkner a écrit 17 ans après à l'occasion de la parution d'un livre qui s'appelle The Portable Faulkner. C'est un recueil de nouvelles, de textes que l'auteur lui avait demandé de faire, que l'éditeur lui avait demandé de réaliser, qui existait déjà pour Hemingway et qui permet de mettre l'œuvre déjà assez vaste de ses écrivains à la portée, une espèce de digest pour le public qui ne les connaîtrait pas. Et donc avec cet appendice, Faulkner entreprend ce qui devait être la dernière entreprise de sa vie et qu'il ne mènera pas à bien, qui est la généalogie de la population du comté de Yoknapatawpha, où se passe l'essentiel de son œuvre. Mais aussi toute la généalogie de la famille Compson. Et c'est quelque chose qui, stylistiquement, est tout à fait différent, tout en longues phrases tortueuses, plein d'ironie mordante sur cette famille confite dans sa mémoire jusqu'à ses derniers représentants qu'on va côtoyer dans Le bruit et la fureur.
Est-ce que vous conseillez de lire cet appendice plutôt après, plutôt avant ? Plutôt pas ?
Ah si, moi, je conseille de le lire, évidemment. Si... on se dit qu'on aura le temps, qu'on ne souhaitera lire le livre qu'une seule fois, je pense qu'il faut le lire en premier.
Ah d'accord. Okay.
Si on se dit qu'on peut le lire plusieurs fois, comme d'ailleurs Faulkner estimait raisonnable de le faire,
oui, trois ou quatre
c'est un livre
fois.
Qui gagne à être lu trois ou quatre fois, ouais. Je pense que c'est pas mal de prendre la tempête en premier, d'avoir ensuite de se faire déplier toute la généalogie des Compson et ensuite comme ça on peut repartir pour une deuxième lecture un peu plus éclairée, ouais.
Et puis une fois qu'on est éclairé, on pourra de nouveau prendre la tempête, puis de nouveau perdre pied et puis y revenir, voilà. Est-ce que vous vous souvenez, Yannick Hennel, de votre première lecture de ce roman Le bruit et la fureur de William Faulkner ?
Absolument, parce que j'hésitais à l'époque, c'était la fin des années 80, j'étais étudiant à Rennes, et j'hésitais entre la philo et les lettres. Donc j'étais en licence de lettres et en licence de philo, sauf que les deux facs étaient à un endroit opposé de la ville, donc j'ai passé un an dans le bus à lire. Et je me souviens très bien que, bon, il n'y avait pas que Faulkner, il y avait d'autres lectures décisives, mais je me souviens du folio Faulkner que j'ai devant moi, Le bruit et la fureur, dans la traduction de Coindreau, avec Satan en couverture. Et ça fait partie...
Ni plus ni moins.
Ni plus, carrément, tranquille. Et ça fait partie, cette violence énonciative, cette intensité dans le mal, traversée de perceptions simultanées et multiples, fragmentées. Ça a fait partie de mon choix de renoncer à la philosophie, parce que je me disais, finalement, la littérature va plus loin. Alors, je ne sais pas si c'est vrai, mais ça a été... j'ai fondé ma vie là-dessus, en fait. Et Faulkner, avec ce roman, j'ai trouvé que ça allait plus loin que ce que j'étudiais en philosophie à l'époque. C'était, il allait vers ce trou, ce néant rythmé qui nous emporte, enfin immémorialement, parce qu'il y avait, je sentais confusément qu'il y avait les psaumes, je sentais qu'il y avait les tragiques grecs, je sentais que toute cette mémoire remontait dans ces monologues exaltés. Je me prenais un peu pour
ça
quand
vous le sentiez une vingtaine d'années, parce que ça faisait déjà partie des soubassements de votre propre culture.
Oui, c'était mon bagage, c'était ce que j'étudiais. J'étudiais un peu dans le désordre, j'avais 20 ans, j'étudiais tout, je picorais aussi. Et en tous les cas, dans la vocation de lecteur de littérature et d'écrivain aussi, je dois dire que Faulkner, surtout celui-ci, hein, Le bruit et la fureur, dans sa radicalité, et j'ose le dire, dans sa limpidité paradoxale, hein, parce que moi je trouve ça absolument, bon, limpide c'est peut-être provocateur, mais évident, direct. C'est la littérature au plus près des nerfs, la voix des nerfs, voilà. Le pèse-nerfs, comme disait Artaud. Eh ben, je trouve que Faulkner, ça a été, ça peut être décisif dans une vie, voilà. Ça change tout.
C'est beau de vous entendre dire ça, et notamment peut-être pour cet âge-là, d'une vingtaine d'années. Est-ce que vous y revenez, Yannick Enel, à ce livre-là ?
Eh ben, j'y suis revenu récemment, oui. Grâce à cette traduction que je trouve...
Mais entre-temps, plus jamais.
Si, j'ai lu beaucoup d'autres Faulkner, notamment Absalon, Absalon. Mais on en parlait un peu avant l'émission, je me sens très bousculé par Faulkner. Et beaucoup plus que par d'autres grands massifs de la littérature qui sont a priori impressionnants, comme Joyce par exemple. Quand je lis Faulkner, je sens que je suis entraîné dans une lave, dans un flux ardent dans lequel je me dissous. Je pense pas être à la hauteur stylistiquement pour tenir, en fait, face à Faulkner.
Et mais autant. Qu'est-ce qui se dissout, votre être ou votre langue?
Mon écriture. Oui. J'ai tendance à imiter, vous voyez, d'un coup. C'est,
Donc faut pas trop y aller.
Ah ben, c'est-à-dire que quand j'écris un livre, je préfère ne pas lire Faulkner, parce que là, je vais être emporté. Vous parlez de tempête, moi c'est plutôt le volcan. Mais sinon, je connais assez peu de livres aussi puissants que Absalon, Absalon. Et Le bruit et la fureur, j'ai une affection toute particulière, parce qu'il s'agit d'enfants. Ce sont des enfants devant une palissade, enfin, tout début. Et on est avec eux, et puis il y a ce cri pathétique
et permanent, quasi
permanent, oui, qui c'est comme si c'était l'idiot de Dostoïevski, mais enfant
et hurlant fort. Est-ce que vous vous souvenez, Charles Recourcet, de la première fois où vous rencontrez Le bruit et la fureur de William Faulkner?
Je m'en souviens, j'étais, coïncidence, moi aussi étudiant à Rennes
dans le même bus. Ah non, c'était pas le même.
Et j'ai eu une période de 4 ans à peu près dans ma vie, on va dire entre mes 16 et mes 20 ans, grosso modo, où j'ai à peu près rien lu. Je faisais autre chose. J'ai énormément joué à la PlayStation, par exemple. Et
comme quoi, nota bene pour les personnes qui nous écoutent, pas de panique.
Voilà, exactement. Pas de panique. Exactement. Je lisais beaucoup avant, je lisais beaucoup d'Agatha Christie, de choses, tout ce qu'on lit, de Fante, tout ce qu'on lit quand on a 15-16 ans.
Enfin, bon, ça dépend qui on est.
Ça dépend qui, effectivement. Voilà, je lisais plein de choses, des très mauvais romans d'espionnage aussi, et puis j'ai arrêté de lire pendant 4 ans, et je m'y suis remis donc en licence, en 3e année après le bac. Et là, j'ai commencé à lire de manière très désordonnée, grosso modo, quand je lisais un livre que j'appréciais. J'ai commencé cette phase, ma vraie phase de lecture par fiction de Borges, et je prenais un des livres cités en exergue, je me disais tiens, ça a l'air bien, et je le lisais, et puis quand j'allais par ricochet comme ça. Et donc c'est une époque fabuleuse où j'ai lu dans le désordre Borges, Delillo, Jean-Bernard Pouilly, enfin vraiment plein de choses qui n'avaient rien à voir et qui étaient toutes super. Et puis à un moment je suis tombé donc sur Le bruit et la fureur. Et donc là, ce serait vraiment peu dire que j'ai été bousculé, puisque je pense que je n'ai à peu près rien compris.
Vous n'étiez pas du tout du côté de la limpidité évoquée par Yannick Enel?
Non, pas du tout. Et j'étais pas non plus du côté du lâcher-prise, parce que je pense qu'il faut une forme de lâcher-prise pour ce livre. Il faut se dire, je comprends pas, mais les images me sautent au visage. Et ça, c'est une sensation que j'ai découverte, je pense, plus tard en lecture, comme je l'ai découverte plus tard en musique, pour le cinéma, pour tous les arts. Donc je suis allé au bout très péniblement, j'ai rien compris. Et je l'avais remisé dans un tiroir de ma tête en me disant, bon, de toute façon, c'est manifestement un grand auteur, la vie.
Mais peut-être qu'il faut quand même s'arrêter sur le fait que je suis allée au bout. C'est-à-dire ouais. Il faut quand même qu'il y ait quelque chose qui vous tienne dans cette lecture. Charles Recourcet, vous avez autre chose à faire à 20 ans que de lire un livre qui vous ennuie, auquel vous ne comprenez pas. Il y a bien quelque chose qui se passe pour vous.
Certes. Alors, je séchais énormément de cours, donc j'avais un agenda qui était quand même plutôt libre à cette époque.
Mais il y a plein de trucs à faire quand on
s'est Il y a énormément de choses à faire. Mais je pense qu'il y avait quand même un sens de... J'ai arrêté plein de livres à l'époque et depuis. En général, c'est parce qu'ils m'ennuyaient ou parce que j'avais l'impression de les avoir déjà lus. Là, c'était pas le cas. J'étais évidemment pas ennuyé. J'étais extrêmement malmené. Et je voulais y aller, je pense, un peu par un mélange de fierté personnelle, mais surtout de, allez, ça va s'élucider, forcément. Et bon, ça ne s'élucide pas plus que ça. Et donc voilà, je me suis dit, j'y reviendrai plus tard. Et je l'ai mis dans la même case qu'on met certains auteurs, qu'on met Proust, qu'on met Sebald, qu'on met Dostoïevski, qu'on peut en mettre plein en se disant, bon, ça viendra.
Et vous y êtes revenu?
Eh ben, j'y suis revenu, je vais
pour
pas dire
traduction.
Contrat est forcé, mais ouais, pour la traduction.
Oui, incroyable. Oui. Donc, votre retour à ce roman, à ce grand roman de 1929 de William Faulkner, c'est pour la traduction dont on va parler aujourd'hui. Mais laissons-le, William Faulkner, 1955, en français, dans le texte pour la RTF, nous parler du combat qu'il a mené dans l'écriture de ce roman.
La brique et la fureur. C'est celui qui m'a donné le plus de peine, qui a été la meilleure faillite. Chaque sujet impose inévitablement et irréductiblement le style. L'écrivain simplement traite le sujet de la meilleure façon qu'il soit trouvé. Son imagination, ses observations, son expérience. Aucun écrivain n'aurait le temps de pousser cette définition plus loin. Il ne lui resterait pas le temps d'écrire.
William Faulkner, 1955, peut-être on peut attraper deux choses pour entrer dans le texte, et notamment sa structure, Charles Recourcet, l'idée d'un combat et l'idée d'un sujet traité avec ses outils. Alors si on essayait d'énoncer clairement quel est le sujet de ce roman, Le bruit et la fureur, on dirait quoi? L'argument?
Alors l'argument, il est assez simple, c'est une vieille famille aristocratique, désargentée, du sud des États-Unis, du Mississippi, et au cours d'un week-end de Pâques, une personne va voler la cagnotte d'une autre. Voilà, grosso modo. C'est très simple.
Et alors avec quels outils? Puisqu'il dit « je m'attaque à ce sujet avec mes outils, mes visions, mon imagination », comment il y va et selon quelle structure?
Alors, il y va, il a beaucoup dit que cette histoire, il avait été inspiré par une image qui lui était venue, c'était une fratrie qui regarde une petite fille grimper à un arbre et elle a la culotte souillée parce qu'elle s'est assise dans la boue. Voilà, il est parti de là. Et Faulkner étant Faulkner, il a donc décidé de construire toute l'histoire de la famille autour de ça et de la raconter en quatre parties, qui sont donc le vendredi, le samedi, dimanche de Pâques, ainsi qu'un jeudi, il me semble, 18 ans plus tôt, et tout cela raconté dans le désordre, en commençant par la narration de l'idiot de la famille, avec des guillemets de rigueur, qui s'appelle Benji. Et qui nous raconte ça avec son point de vue qui est tout en synesthésie et où un souvenir en appelle un autre, une sensation appelle un souvenir. Et donc avec Benji, on va être à la fois dans le présent de la narration, dans l'enterrement de la grand-mère, dans le mariage de sa sœur, dans une douzaine d'événements. Puis ensuite on passera à un frère. Puis ensuite, on passera à un autre frère, puis ensuite à un point de vue extérieur. Et chaque fois, Faulkner dira qu'il a essayé d'adopter un point de vue différent et que chaque fois, il aura échoué. Et donc, ce sera son plus bel échec, son plus beau combat.
Comme l'impossibilité de regarder les événements, en tout cas de les attraper totalement. Vous mentionnez quand même donc trois jours de 1928, trois jours qui à la fois se suivent mais ne se suivent pas dans la narration, puisqu'on aura le 7, le 6, puis le 8 avril, mais au milieu de ça, la date de 1910, qui vient éclairer quoi, Charles Recourcet?
Elle vient éclairer le triste destin de Quentin, l'aîné de la fratrie, qui se retrouve en fin de première année à Harvard à ce moment-là. Il arrive à Harvard parce que la famille désargentée a dû vendre un des prés qui jouxtait la maison pour pouvoir l'envoyer, et ce Quentin est complètement miné par sa mauvaise conscience, par son amour pour sa sœur, un amour tout est très complexe, c'est-à-dire que pour lui, l'honneur de la famille est lié à la virginité de sa sœur, et il est tellement amoureux de sa sœur qu'il aurait aimé commettre l'inceste avec elle, sauf que ce n'est pas lui qui a défloré sa sœur, et donc tout ça le rend absolument fou de mauvaise conscience et de haine de soi, et il finira par se jeter d'un pont avec des fers à repasser aux pieds.
Voilà. Ça, c'est la scène de 1910, en tout cas, c'est le flux de conscience. Est-ce que c'est bon d'utiliser ce terme-là de flux de conscience, Yannick Hennel? Et quand on prononce ce mot-là, dans quelle histoire littéraire on replace la publication du roman de Faulkner?
Alors, les flux de conscience, enfin, les monologues intérieurs, comme on disait à l'époque, ça vient de Joyce. Virginia Woolf aussi, en quelque sorte, utilise cette technique. Mais je trouve que dans Le bruit et la fureur, il y a encore une démultiplication de ça. C'est en cela que je trouve ça beaucoup plus fluide. Plus c'est complexe, plus c'est fluide, finalement. Parce qu'on a des, comment dire, c'est comme dans la vie, on pense à cinq choses en même temps. Et pour peu qu'on soit anxieux, pour peu qu'on soit hanté, pour peu qu'il y ait une faute au préalable qu'on traîne, qu'on soit maudit, comme tous les personnages de cette famille, alors du coup, ces voix bruissent en même temps. Et le coup de génie de ce livre, c'est qu'il y a une contiguïté de ces voix, parfois écrites en italique, pour plus de clarté, disons, qui viennent nous donner toute la pesanteur de ce que c'est qu'une conscience. Donc, c'est pas vraiment un flux de conscience.
Ça, faut juste préciser que quand vous parlez de voix aussi écrite en italique, ouais, on est dans un seul et même chapitre. C'est-à-dire
absolument
qu'on pourrait dire qu'on est avec une seule voix, mais cette même voix, elle est augmentée, démultipliée, ou en tout cas, elle cohabite avec, on pourrait dire, d'autres discours, Yannick Hennel, qui seraient les discours ou bien directement entendus dans la même scène, ou bien éventuellement des réminiscences de choses qu'on a entendues. En tout cas, c'est comment est-ce que la pensée, elle n'est jamais unitaire, mais elle est toujours peuplée, quoi.
Elle est peuplée, elle est très impure, elle ne cesse d'être le lieu d'un fracas chronologique. Enfin, c'est très déstabilisant parce qu'on est sur une même page, on reçoit des informations intérieures en fait sur des événements qui viennent. Par exemple, je suis à ce micro et d'un coup, le petit bruit d'un gobelet peut me faire penser à la manière qu'on a eu de me tendre un gobelet dans mon enfance. Et sauf que là, Faulkner écrit tout. Il y a une espèce de saturation splendide de cette prolifération-là, qui est un témoignage linguistique, enfin poétique, parce que c'est de la poésie au fond, sur ce qu'il en est d'avoir une tête, d'avoir une conscience. Enfin, c'est en cela que je disais tout à l'heure, un peu de manière hasardeuse, que c'est aussi fort que de la philosophie, sinon plus. Et dès le début, je trouve que cette manière qu'on a d'être déstabilisé par ces enfants qui sont devant une palissade, il y a des petits trous, il y a des osselets, il y a une pièce de 25 cents. C'est ce plaisir qu'on a.
Moi, c'est ça
puzzle
que j'ai gardé. Moi, c'est-à-dire voilà, que quelques années après ma première lecture de ce roman, j'avais cette image. La seule chose que j'avais, mais c'était, par contre, c'était incroyablement incrusté en moi, mais j'avais vraiment la palissade, quelques pièces,
pareil,
la chaleur,
pareil,
des mômes.
Les trous. Je me souvenais pas que de l'autre côté, c'était peut-être des gens qui jouent au golf.
Moi non plus.
Donc des puissants, enfin des adultes en tout cas, des grands. Mais je me suis dit, en le lisant, là, pour la deuxième fois, donc, dans votre traduction splendide, je me suis dit que c'était presque la scène initiatique du livre, sa métaphore. Enfin, il y a un écran compliqué, on est comme des idiots devant cet écran qui serait la vie, disons. Il y a des trous, on voit un peu. Parfois, on est obligé d'être porté pour voir de l'autre côté. Finalement, de l'autre côté, c'est peut-être pas si intéressant. Ce qu'il y a d'intéressant, c'est ce qu'on a dans la tête. Et c'est vraiment de ça dont Faulkner nous prodigue l'approche ardente, enfin, folle et sans message. Il n'y a pas de message, c'est un livre sur le mal, et à aucun moment, il ne vient nous faire la leçon. Enfin, La chose qui m'a frappé, parce que ça, je l'avais refoulé, je dois dire, de ma première lecture, c'est que ça porte sur quelque chose que Freud avait décelé, enfin, dans les mêmes années, à savoir que la haine est plus forte que l'amour, et plus ancienne, surtout. C'est un grand livre sur ça, sur le fait que la haine est plus ancienne que l'amour.
Mais qu'elle est parfois sans cause, ou sans cause aimable
comme,
à raconter.
Comme le mal lui-même, le mal est sans pourquoi, le mal pour le mal. Et on suit ça, du coup, notamment le chapitre où c'est Jason dont nous est livrée la conscience. On suit ça comme un polar, enfin. Jusqu'où va aller ce type, enfin. Et il y a des voitures, comme dans un film de John Huston, enfin, des poursuites, des pneus crevés. C'est absolument passionnant, parce qu'il y a plein de livres dans ce livre, au fond. Et je trouve que c'est un livre du Sud, En 1929, c'est quand même pas rien dans l'histoire des États-Unis. C'est la dévastation économique. Et c'est comme si le Sud, à travers ce livre, venait dire au Nord vainqueur, regardez l'état du pays, c'est bien beau, l'économie, la finance, mais ce qui se passe dans les familles, c'est la mise à mort. C'est l'inceste, c'est le massacre.
On va y revenir évidemment à ce Sud qui transpire du texte, mais simplement commentant encore un tout petit peu l'idée du combat dont parle Faulkner dans l'archive de 1955, peut-être pour parler de ce qui pourrait rester ou ce qui pourrait nous arriver du combat qu'il dit avoir mené avec ses outils. Est-ce que vous avez quelque chose à en dire, Charles Recourcet? Comment est-ce que ça nous arrive à nous?
Peut-être
dans la langue originale que vous avez beaucoup travaillé.
Je pense que ce qui nous arrive, c'est que ce qui est passionnant dans ce livre et qui rejoint tout à fait ce que vous venez de dire sur le fait qu'il n'y a pas de morale, c'est que tout ce que dit Faulkner, tout son décortiquage, son désossement de ces familles du Sud, de leur côté fermé, de leur côté rance, de l'inceste, de la haine, des jalousies, enfin tout ça, c'est pas quelque chose qu'il regarde à distance, c'est quelque chose qu'il a en lui, et c'est quelque chose avec lequel il restera toute sa vie. Et c'est pour ça, je pense que c'est pas tant un livre de dénonciation, toute son œuvre d'ailleurs, ce sont pas des livres de dénonciation, ce sont des livres où Faulkner va chercher au fond de lui tout ce qu'il a, tout ce qui est hérité de sa famille, tout ce qu'il voit alentour, et le pose sur la page pour essayer, je pense que l'idée c'est de...
Mais du coup, le grand combat, c'est un combat de lucidité?
Ah, totalement, c'est un combat de lucidité. Et c'est pas du tout une question de thérapie, c'est une question de... En fait, il y a toujours, je pense, un affrontement au sein de Faulkner qui fait partie de ce Sud, mais qui ne cherche jamais à s'en émanciper, parce que dans son éducation, on ne s'émancipe pas de son milieu. Et donc, il cherchera en même temps toute sa vie à être accepté dans le Sud. Et comment on est accepté dans le Sud quand on vient d'une famille comme la sienne, qui est une famille assez bourgeoise? On est accepté en ayant tous les atours du gentleman farmer. Et donc, lui essaiera d'avoir cette double vie. C'est-à-dire qu'il va être écrivain, mais qu'on n'est pas estimé quand on est écrivain dans le Mississippi à cette époque-là. Donc, il va essayer de s'afficher comme gentleman farmer. Il dira dans la presse qu'il est un humble, un simple fermier, alors qu'il est en train de construire une des œuvres les plus importantes du XXe siècle.
C'est un autre combat, c'est le combat de cette dualité.
C'est un autre combat. Mais justement, je pense que tout est là-dedans, et que toute cette dualité... Et là-dedans, toute cette dualité se trouve aussi dans la manière dont il parle des Noirs, avec à la fois tous les préjugés de sa classe, de sa caste, et en même temps sa volonté de les voir s'émanciper. Je pense que les outils de Faulkner, c'est une forme non pas de haine de soi, mais de conscience incroyablement aiguë de la matière dont il est fait, et que toute son œuvre va être centrée autour de réussir à écrire, à faire émerger littérairement un Sud où toute cette matière viciée qu'il sait avoir en lui sera exposée de la manière la plus tragique possible au lecteur.
Est-ce que quand on se lance dans une traduction comme celle-ci, on doit lire par exemple, je sais pas, des essais sur la biographie, sur son positionnement politique à cette époque-là, sur l'histoire des États-Unis, ce que vous dites là, est-ce que ça vous a servi pour traduire?
Alors c'est des choses... Moi, je me lance toujours dans... Je suis pas un bon élève, mais je pense qu'il ne faut pas l'être. Je ne me documente très peu avant de lire une traduction. Coindreau n'a pas lu sur Faulkner avant de traduire Faulkner, car par définition, rien n'était écrit sur Faulkner.
Maurice Edgar Coindreau, à qui on doit donc...
Voilà, toutes les premières traductions quand... Voilà, moi, c'est pas quelque chose qui m'intéresse.
Donc, direct, tempête de la langue.
Direct, tempête de la langue. Alors, il y a des livres où ça se passe très bien, la majorité. Il y a des livres où c'est plus complexe, comme celui-là. Je me suis beaucoup documenté en cours de traduction. Je me suis procuré les traductions canoniques espagnoles et italiennes, parce que quand on traduit un texte comme ça, la tentation est assez grande de tricher, quand on est un mauvais élève comme moi. C'est-à-dire, on peine sur quelque chose, on fait le tour des options possibles, on se retrouve à entartiner la page, tout ça séparé par des slashes, puis on dit, bon, bah, il faudra trancher un moment. Tiens, qu'est-ce qu'il a fait? coin droit avant moi. Bon, et puis le problème, c'est qu'assez vite, je me retrouvais à le faire 3, 4, 5 fois par page. Ma traduction n'était pas ma traduction. C'était un mélange de celle de coin droit. J'arrivais pas à sortir de ces mots, donc j'ai fait, bon, ok, hop. Je suis allé regarder l'espagnol, l'italien, et en même temps, je lisais des notes de lecture, je lisais des articles.
Que vous maîtrisez pas, vous...
Si, si, je parle un italien à peu près correct, et l'espagnol, je l'ai étudié, enfin, j'en ai fait au collège et au lycée, j'en ai des souvenirs. Voilà, donc après, c'était, si vous voulez, j'avais un nombre d'anglais d'onglets ouverts absolument faramineux, puisque j'avais 3 PDF, la traduction française, dans 4 PDF, la traduction française, espagnole, italienne, et le texte original. J'avais des dictionnaires en ligne, j'avais des articles sur Faulkner, et donc c'était pratiquement, il y avait une phase de la traduction, du travail de traduction qui relevait pratiquement de l'analyse de données où j'allais, je comparais des choses, je me disais mais mon interprétation va complètement à l'inverse de l'espagnol, de l'italien, est-ce que c'est eux qui se sont plantés, est-ce que c'est moi qui me trompe, enfin c'était assez vertigineux, mais ça m'a quand même aidé. Mais donc j'étais confronté au vertige de 4 langues en fait finalement.
Ça me paraît être finalement une bonne solution pour traduire Faulkner. I wish I knew just how to sing. I'd go out and make a record, and it'll be the best of everything. Singing, boy, you would think it was the very, very best. Yes, that's why I wish I knew just how to say. I'd make records, send them all over the country. I'd make this whole darn country ring. I feel so bad sometimes when I hear this angel sing, and me not knowing how to sing, that's why I can't make a thing, that's why I wish I knew just how to sing. Oh, I wish I knew how to sing. If I did, you can bet your life I'd make some money and a lot of good things.
France Culture, le Book Club, Marie Richeux.
Et un book club consacré aujourd'hui au grand roman de William Faulkner, Le Bruit et la Fureur, dont vous proposez, Charles Recourcet, une nouvelle traduction, préfacée par vos soins pour les éditions Gallimard, et dont vous êtes un fervent lecteur, Yannick Hélène. On l'a entendu, merci à tous les deux d'être avec nous aujourd'hui pour en parler. Nous avons parlé de sa structure, nous avons parlé des souvenirs de lecture que ce texte avait laissé en nous. Entrons dans votre traduction avec un extrait du premier chapitre et la fameuse voix de Benji.
Je ne pleurais pas, mais je n'arrivais pas à m'arrêter. Je ne pleurais pas, mais la terre bougeait, et ensuite je me suis mise à pleurer. La terre penchait de plus en plus, et les vaches ont monté la colline en courant. Tipi a essayé de se lever. Il est retombé, et les vaches ont descendu la colline en courant. Quentin m'a tenue par le bras, et on est allé vers l'étable. Ensuite, l'étable n'était pas là, et on a dû attendre qu'elle revienne. Je ne l'ai pas vue revenir. Elle est arrivée derrière nous et Quentin m'a posée dans l'auge où les vaches mangent. Je m'y suis tenue. Moi aussi, je partais et je la tenais. Les vaches ont encore descendu la colline en courant et elles sont entrées par la porte. Je n'arrivais pas à m'arrêter. Quentin et Tipi remontaient la colline en se battant. Tippie tombait vers le bas de la colline et Quentin le traînait vers le haut. Quentin a frappé Tippie. Je n'arrivais pas à m'arrêter. « Debout, a dit Quentin. Reste ici. Ne bouge pas, je reviens. » « Benji et moi, on retourne au mariage, a dit Tippie. »
Elle est à la fois oubliable et inoubliable, cette voix de Benji, Yannick Enel. C'est-à-dire que moi, en tout cas, quand je l'ai retrouvée à l'occasion de cette nouvelle traduction, donc, à la fois la même et différente, j'avais l'impression de la réentendre pour la première fois, mais d'être au contact du souvenir qu'elle avait laissé en moi. Qu'est-ce qu'on peut dire de cette voix qui, tout à l'heure, vous parliez d'une immédiateté, d'une langue proche des nerfs, de cette voix qu'on découvre quand on ouvre ce livre-là ?
Moi, comme vous, je me souvenais principalement de ça, enfin, de ce piaulement qui est incessant, qui agace tous les membres de la famille et les serviteurs noirs. Mais quand on arrive vers la fin du livre et qu'il y a cette prédication tout à fait stupéfiante, enfin, qui est comme un gospel, on se rend compte que c'est comme si, au fond, cette voix de Benji, qui est le sacrifié de la famille, était trempé dans le sang de l'agneau. Et qu'il y a quelque chose d'une métaphysique, d'une immense douleur métaphysique dans ce livre, que les salauds et les bons, au fond, se mélangent, et encore une fois, Faulkner ne cherche pas à juger, mais que c'est comme si le cœur antique, qui autrefois, dans les vieilles tragédies grecques, venait regarder à distance les personnages, était ici intégré à chaque page, et qu'on était jugé sans cesse, par soi-même, de manière effrayante. Et le seul, c'est Benji, qui est rabroué, terriblement. Moi, c'est un des personnages qui me met les larmes aux yeux, enfin, comme le prince Mishkin.
C'est le sacrifié, c'est en même
On a l'impression, enfin, je sais pas, c'est qu'une lecture que j'ai. C'est comme s'il avait pris sur lui, de manière un peu christique.
Tout le mal.
Je le dis parce que Faulkner insiste sur le Christ, même parfois de manière très ironique, avec beaucoup d'auto-ironie. C'est comme s'il avait pris sur lui, effectivement, tout le mal de cette famille. On ne cesse de lui taper dessus, enfin.
Parce qu'il hurle, hein, c'est ça aussi. On parlait tout à l'heure,
il est insupportable, effectivement.
Vous avez dit tout à l'heure, Charles, qui avait quelque chose de très synesthésique. Le son est tout le temps là. Et là, d'ailleurs, c'est le son, mais aussi l'odeur, mais aussi la vue, l'étable. On montait à l'étable et l'étable n'était pas là.
Ouais.
Incroyable. Ouais. Enfin, c'est-à-dire, ça apparaît, ça disparaît. Il me met dans l'eau. Je me dis, mais attends, mais quelle est l'image qui se forme dans ma tête? Il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là où tous les sens se mélangent.
Mais ce qu'il y a de beau, c'est que, au fond, je ne sais pas ce qu'on peut attendre d'un livre, mais moi, je n'attends pas d'être dorloté. J'ai horreur du dorlotage, surtout en littérature. Et il se trouve que c'est souvent à la mode, le dorlotage. Et là, chez Faulkner, c'est tout le contraire. Il y a une immense violence, mais ce n'est pas une violence qui nous vaut du mal, nécessairement. C'est l'exposition crue de l'horreur et de la beauté qu'il y a en chacun de nous, et de la destruction à l'œuvre dans cette famille, et de la manière dont Caddy, la jeune fille, s'enfuit, dont les autres s'arrangent.
Et qu'est-ce qu'il fait au langage pour rendre cette violence crue? Parce qu'il y a quelque chose, on l'a entendu là dans la traduction, et on imagine que dans la langue originelle c'est la même chose, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui n'est pas que bousculé dans ce qu'on nous dit, il y a quelque chose qui est bousculé dans comme on nous le dit.
Et je crois qu'il y a, enfin Charles pourra en parler mieux que moi, mais puisque c'est votre langue finalement, c'est pas celle de Faulkner, ce qu'on lit en français c'est vous,
c'est vrai.
Mais moi j'y entends à la fois, et on l'entendait très bien dans la lecture, à la fois une syncope qui vient des perceptions simultanées, mais aussi un chant, une sorte de psaume, enfin un chant terrible, exalté, enfin qui vient
avec la répétition. Il y a aussi une scansion,
oui,
là,
la litanie,
juste
et puis il y a sans cesse, enfin je sais pas, vous vous souvenez, il y a à la fois les Hébreux en esclavage et les Noirs qui ne cessent d'être encore en esclavage au service de cette famille, et on se demande si une libération va être possible, si Benji peut se libérer lui-même de son malheur. Si chacun va sortir en fait enfin de la malédiction, il y a une beauté terrible au fond de la tragédie. Voilà, c'est ça que nous redisent les grands écrivains, et puis Faulkner aussi. Et alors c'est pas du tout la réconciliation, c'est pas la conciliation, c'est pas le dorlotage.
Quoique, la dernière phrase, c'est Chacun à sa place.
Ah oui, c'est vrai.
Il y a une sorte de retour de l'ordre.
Mais qui est très ironique.
Ironique. C'est voilà, la fleur brisée pendait du poing de Ben et ses yeux étaient redevenus vides et bleus et sereins, tandis que les corniches et les façades défilaient à nouveau sans heurts de la gauche vers la droite. Arbres et poteaux, fenêtres et portes, panneaux d'affichage, chacun à la place qui lui était assignée.
Mais c'est pas les êtres.
Non, c'est les objets. Voilà, ouais. Ouais, c'est les objets. Mais il y a toujours quelque chose d'ailleurs, mais on va peut-être pas s'égarer, mais moi je me rappelle aussi de, dans Lumière d'août, il y a une sorte de faux calme. À la fin, Léna est sur le chariot. Elle se dit, tiens, je suis déjà là, j'ai déjà fait ce voyage. Il y a une sorte de, ouais, d'apaisement comme ça, peut-être faux, qui vient conclure le roman. On va écouter la voix de Cécile. Elle a lu Le bruit et la fureur et vous pose une question à chacun.
Bonjour le Book Club, j'ai découvert William Faulkner avec Tandis que j'agonise, dont le flux de conscience perturbant m'avait déjà hypnotisé, et c'est vraiment ce qu'on retrouve dans Le bruit et la fureur, qui mélange les époques, puisque les souvenirs se superposent au présent avec des phrases qui se rompent et qui s'entrecoupent. Donc l'écriture est aussi mouvante, cachée, et la fureur de la plume répond vraiment aux sentiments et aux instincts furieux des personnages. Et donc j'étais curieuse de demander à Charles Recourcet comment est-ce que vous aviez trouvé cet équilibre entre la grammaire si particulière de la langue de Faulkner et la puissance d'évocation poétique de certains passages. Et à Yannick Hanel, est-ce que William Faulkner a influencé votre œuvre au même titre que Herman Melville, un autre géant des lettres américaines, dont vous dites qu'il vous écrase à chaque fois que vous commencez à écrire un livre ? Merci pour vos réponses.
Bah merci pour vos questions, Cécile, qui résonnent dans un espace qui résonne. Alors, Charles Recourcet, comment est-ce que vous avez fait la part des choses entre bousculer la grammaire et travailler l'évocation poétique, demande Cécile.
Alors, très vaste question. Il y a une chose qui est, et c'est peut-être le plus compliqué en traduction, quand on est, quand on travaille sur des textes qui sont complexes où le sens n'est pas évident. Où les choses, on va dire, sont pliées, c'est qu'il faut d'abord réussir à déplier. Il faut d'abord réussir, par exemple, dans le passage, dans l'extrait que vous avez lu, c'est un moment où Benji et Tippi ont bu du vin de Celse pareil, ils sont ivres, et donc ça explique, et donc, voilà, une fois qu'on comprend que ce qu'on voit, ce sont les perceptions de Benji, et il faut donc penser aux premières cuites qu'on a prises quand on était adolescent, ou à d'autres moments, ou vraiment le moment où on a trop bu, tout se dérègle.
L'étable n'est plus là, quoi.
Ouais, l'étable n'est plus là. Et en fait, nous, on a l'impression d'être stable et tout tourne autour de nous. Et c'est ça qui est en train d'arriver à Benji. Et c'est exactement ça que va être son point de vue. C'est-à-dire, c'est quelque chose de très prosaïque. Benji n'interprète pas. Benji reçoit. Mmh. Tout est toujours très prosaïque. Et pourtant, cette évocation est immense. Et donc, il faut réussir à déplier pour ensuite replier en essayant d'obtenir le même effet de pliage que l'auteur. Évidemment, pas à l'identique, puisque on n'a pas la même prosodie, on n'a pas la même langue, on n'a pas les mêmes rythmes, on n'a pas les mêmes accents, les mots en français sont plus longs, tout ce que vous voulez. Donc c'est vraiment ça, c'est passer énormément de temps à déplier pour comprendre quelles sont les images employées, et c'est valable dans toutes les parties, dans la partie de Quentin, dans la deuxième, il y a aussi des passages qui sont d'une beauté, d'une puissance, des passages où il se remémore des conversations avec son père, avec Caddy, conversations réelles, ou imagées d'ailleurs, ou imaginaires parfois. Et ensuite, une fois qu'on a fait ça...
Donc concrètement, vous entrez, quoi, vous ouvrez la porte, vous allez voir, et puis ensuite, ce que vous nous donnez, c'est la porte qui est refermée, voilà. Normalement, c'est avec le bouillonnement de ce que vous
donc
y avez compris.
J'entre, je prends les mots pour ce qu'ils sont, et quand ça ne veut rien dire, quand ça n'a pas de sens immédiat, je me dis, là, il y a quelque chose qui est plié. Donc j'essaie de déplier à l'aide de ce qu'il y a autour, à l'aide de la suite du livre, j'essaie de comprendre le sens de ce qu'on est en train de me dire là. Le sens qui est caché à l'intérieur de ce petit pliage de mots, de ce petit origami de mots. Et ensuite, mais je vous parle, en l'occurrence, là, c'est cinq relectures et réécritures. Mmh. Donc vraiment, il y a beaucoup de choses qui se sont faites par tâtonnement. Et voilà, et ensuite, réussir à essayer, c'est déjà
c'est
beaucoup.
Pas mal, sur un livre comme ça. J'aime bien, moi.
Et rater encore,
on
rater mieux,
etc. On peut tous commencer par réussir à essayer, puis après on voit ce qui se passe.
Et voilà, et ensuite vient ce qui se passe avec, quand on traduit n'importe quel styliste, c'est tenter, s'efforcer de se hisser à la hauteur de sa langue, en recourant parfois à des mots très simples, et donc en ne s'autorisant pas à éclaircir et à simplifier.
Oui, c'est ça, vous refermez bien la porte, et d'ailleurs, c'est pourquoi... Quand même, je rejoins ce que disait Yannick Enel en disant il y a aussi une forme de limpidité, c'est que cette phrase, j'ouvre le livre et je vois que je l'ai soulignée. Nos ombres étaient sur l'herbe, elles sont arrivées aux arbres avant nous. Mm-hmm. Bon, c'est pas très compliqué,
non.
On est d'accord. Et en même temps, la puissance de mouvement qui est contenue dans ces deux phrases-là, elle est incroyable, l'image, elle est géniale, et on a juste « nos ombres étaient sur l'herbe », elles sont arrivées aux arbres avant nous.
Et là, on comprend aussi quelle est la posture du personnage, pour qui la temporalité, la causalité, qui sont quand même grosso modo les choses qui font tenir le réel en place. Le réel, la mémoire, la vie dans le monde n'existe pas chez Benji, puisque son ombre, elle est à lui, mais elle a une vie propre. La colline a une vie propre, les vaches, les tables, etc. Effectivement, c'est une phrase très simple. Il y a une puissance d'évocation monumentale et dans laquelle on a vraiment tout le rapport à lui-même de ce personnage.
Et en même temps, il y a d'autres moments, je tourne un peu plus les pages, et on est avec Antine, on est en 1910, et quelqu'un dit « Voici le mausolée de tous les espoirs et de tous les désirs ». D'un seul coup, il y a du lyrisme qui s'invite, il y a d'autres choses qui s'invitent, et aussi en fonction de la langue avec laquelle nous sommes. Je reviens à Cécile, notre auditrice, qui se souvient qu'Herman Melville est cité par vous, Yannick Enel, comme une profonde et importante influence. Elle vous demande si c'est le même cas pour Faulkner. Alors, vous avez un peu répondu tout à l'heure en disant ouais. « Je fais gaffe, parce que je me dissout facilement dans son style, mais comment on peut répondre plus longuement à Cécile ?
Alors, ce serait comme avec le vin et le whisky, ça me vient comme ça.
Ok.
Autant le vin melvillien me fait du bien, autant le whisky, j'y arriverai plus. Le whisky faulknerien.
Ça tabasse trop.
Donc, par petites prises, et ça rejoint ce que vous disiez, il y a des moments d'illumination dans le texte, notamment toutes les descriptions de la lumière. Enfin, c'est prodigieux, on dirait Rimbaud parfois. Enfin, c'est aussi beau. Là, je me permets de lire
allez-y,
une phrase.
Allez-y, bien sûr.
Je prends au hasard, assez, hein. Enfin, page 201. Je sentais l'odeur des courbes de la rivière par-delà la nuit tombante, et j'ai vu l'ultime lumière s'étendre tranquille sur les étrangs, tels des fragments d'un miroir brisé. Puis derrière cela, des lumières sont apparues dans l'air limpide et pâle, et elles tremblaient un peu comme des papillons voltant au loin.
Synesthésie à fond la caisse aussi, quand même, hein. Ouais, vraiment.
Et donc, quand j'écris, je m'entoure de... Enfin, je ne sais pas comment font les autres, mais je m'entoure de plein de livres que j'aime. Il y a toujours Melville, c'est vrai, dont je me sens le frère, le modeste frère français, Bartleby, Ismaël, le narrateur de Moby Dick. Et Faulkner, c'est les phrases que j'ai soulignées. Effectivement, je traîne avec moi un vieil exemplaire de Sanctuaire. Je le relis pas entièrement, c'est vrai, mais tout ce que j'ai souligné, et là, grâce à la traduction de Charles Recourcet, j'ai souligné, mais à gogo.
Ouais, moi aussi. Hein.
C'est beau, des poèmes, au fond. Mmh. On les ouvre et il y a une page, quasiment, c'est un poème, puis un autre. Ce sont des aperçus brisés, coupés. Comme des reflets dans une flaque d'eau, et d'un coup il y a tout le livre là.
Mais alors justement,
et donc ça me sert pour écrire. Ouais.
Vous utilisez, Yannick Enel, cette métaphore d'aperçu brisé, coupé, des reflets, du miroir brisé, c'est quelque chose qui est souvent utilisé pour décrire aussi la construction du bruit et la fureur. Mmh. En quoi ça nous renseigne ça sur le roman de Faulkner, cette idée à la fois du miroir, donc du possible reflet du réel, on parlait tout à l'heure de la possible et impossible captation du réel, et en même temps la brisure, l'éclat.
Ça nous renseigne sur nos limites, enfin, sur ce dans quoi nous sommes emprisonnés, c'est-à-dire une perception que les artistes vont essayer d'élargir, d'agrandir. J'ai la sensation que Faulkner, c'est un peu bête ce que j'imagine de penser comme ça, j'ai la sensation que Faulkner va parfois plus loin que Joyce dans la tentative phénoménologique, c'est-à-dire d'essayer de percevoir encore plus, encore plus loin, quitte à frôler l'illisible parfois, et là il se retire vite, parce que c'est jamais illisible. Et il y a vraiment un travail...
Mais percevoir quoi alors ? C'est à la fois nous,
percevoir
l'intérieur,
ce qu'il en est d'être,
ouais.
le Dasein, pour le dire à l'allemande, l'être-là, notre présence. Vous disiez tout à l'heure, dans Lumière d'août, il y en a plein des moments comme ça, de suspension. Il y a la lumière, il y a le bois d'une grange, il y a le vent, ça tourne. Juste exister, tellement exister, sans la faute. La faute est toujours là chez Faulkner. Une faute presque sans objet, exister enfin sans la faute. Ce serait la lumière qui nous traverserait complètement. Et il y a cette nostalgie déchirante, enfin ça serre le cœur aussi Faulkner, chez les personnages d'être... C'est pas vraiment l'innocence, c'est d'arriver à percevoir, à vivre un instant sans...
Qu'est-ce qui nous serre le cœur ? Vous avez raison, ça nous serre le cœur.
Ben, j'imagine que c'est ça, enfin, ces personnages qui n'arrivent pas à vivre sans être écrasés par une pesanteur qui n'est pas leur faute à eux. ça vient de la famille. Enfin, c'est et puis ce sont des victimes, mais comme mais
ça dépend. Comme... Ils sont parfois auteurs de crimes. Enfin.
Alors il y a Jason qui est une horreur, oui. Mais je pense là aux jeunes filles, enfin, du livre. Je pense à Benji, même Quentin, enfin, qui est lui-même fautif. Oui, il serre le cœur, ce qui n'est pas le cas dans Joyce. Moi, j'ai une grande admiration pour Joyce, mais les personnages ne nous serrent pas le cœur, en fait. Là, il y a une émotion, enfin, qui est palpable à chaque phrase, parce qu'on les connaît enfants, on les mène avec leurs impuissances et leurs désirs. Enfin, je crois que la littérature, qu'elle soit écrite en français, en américain, peu importe, au fond, c'est de ça dont elle parle, c'est ça qu'elle cherche à faire chanter des émotions complexes, enfin.
On va écouter de nouveau la voix de William Faulkner en 1955, suivie de celle de la grande romancière américaine Toni Morrison en 2012, suivie d'un extrait de nouveau du bruit et la fureur de William Faulkner dans votre traduction sur la question particulière de la place des personnes noires appelées nègres dans ce texte.
Vous êtes William Faulkner, un écrivain né dans les États du Sud. Je ne puis donc éviter de vous demander ce que vous pensez de la question raciale aux États-Unis et du problème noir.
Tout peuple doit faire face, enfin, au choix. Être libre ou être esclave. Nous ne sommes plus à l'époque où l'on pouvait choisir en plus de chaque. Il ne s'agit plus de degrés de liberté ou d'esclavage. Il n'existe dans certaines parties du monde une hiérarchie de liberté comme un système de caste militaire. Là, le choix est plus difficile et doit être fait un prix de peine, même de violence.
Au prix de peine et de violence.
Mais nous du sud des États-Unis, nous faisons ce choix et ce sera le bon.
Je pense qu'il a complètement s'est imprégné de cette culture afro-américaine, mais sans s'exprimer encore et trop sur ce qu'elle est. Mais on entend ce son un peu noir et la façon dont il traite ces personnages, ces noirs, est tellement différent. Vous savez, il les a vraiment pris au sérieux, ce qui n'est pas le cas pour d'autres écrivains américains.
Vous ne savez pas ce qui se passe, j'ai dit. Vous n'entendez pas les ragots que j'entends. Et je peux vous assurer que je les fais taire. Je dis, ma famille possédait des esclaves ici quand vous n'aviez que des petits magasins de campagne et des terres dont aucun nègre n'aurait voulu en métayage. Si tant est qu'il les ait jamais cultivés. Heureusement que le Seigneur a fait quelque chose pour ce pays. Ceux qui y vivent ne s'en sont pas donné la peine. Vendredi après-midi, j'avais devant moi 5 km de terre qui n'avaient même pas été retournées. Et tous les hommes bien portants du comté se trouvaient en ville pour le spectacle. J'aurais pu être un étranger affamé, je n'aurais eu personne à qui demander mon chemin. Et elle qui essaye de me faire prendre de l'aspirine. J'ai dit, quand je veux manger du pain, je le mange à table. J'ai dit, vous n'arrêtez pas de nous rabâcher tous les sacrifices que vous faites pour nous, alors que vous pourriez vous payer 10 nouvelles robes par an avec ce que vous claquez dans vos saletés de cachet. Je n'ai pas besoin d'un remède. J'ai besoin qu'on me débarrasse de la cause de mes maux de crâne. Mais tant que je devrais travailler 10 heures par jour pour subvenir aux besoins d'une cuisine pleine de nègres, maintenir le train de vie auquel ils sont habitués et les envoyer au spectacle avec tous les autres nègres du comté, seulement il était déjà en retard. Le temps qu'il arrive, ce serait terminé.
Trois voix, celle de Faulkner en 1955, celle de Toni Morrison en 2012 et la voix du texte que vous avez traduit, Charles Recourcet, sur cette question raciale dont on a dit, voilà, 1929, c'est une époque où la ségrégation raciale est encore en vigueur aux États-Unis. Comment est-ce que ces questions-là, elles se sont agitées pour vous qui traduisez en 2025, donc aussi avec l'histoire qui est passée, puis d'autres outils peut-être théorique pour gérer ces questions-là?
Alors, donc, l'extrait qu'on a entendu, c'est la voix de Jason, c'est la troisième partie. Jason qui, comme le disait Yannick Enel, est une horreur. On pourrait ajouter une ordure, enfin, un vrai sale type, antisémite, égoïste, violent,
misogyne.
Raciste, misogyne, enfin, voilà, tout. À peu près tout ce qui se finit en ist et en in, en l'occurrence, il peut l'être. Il me semble que dans la partie précédente de Quentin, c'est différent. Il me semble que les Noirs sont appelés Noirs.
Ouais, avec un N majuscule.
Voilà, notamment parce que, et c'est très intéressant d'ailleurs, la position de Quentin là-dessus, qui arrive à Harvard, dans le Nord, où il se trouve confronté avec l'impression qu'on attend de lui qu'il éprouve un certain mépris pour les Noirs. Mépris qu'il n'éprouve pas au-delà d'un certain habitus de classe, finalement. Et puis, dans la troisième partie, la quatrième partie, qu'on pourrait qualifier d'objective avec une narration à la troisième personne, on retrouve là des choses qui nous paraissent choquantes pour le coup, des comparaisons entre un pasteur noir de petite taille, comparaison vraiment physique qualifiée de simiesque. Et donc je trouve que là-dedans, on a toute la position et toute l'ambiguïté de Faulkner, dans le sens où, quand je vous disais tout à l'heure qu'il luttait dans son éducation du Sud, c'est-à-dire que Faulkner...
Depuis lui-même,
exactement. C'est-à-dire que Faulkner, et d'ailleurs son engagement à la fin de sa vie en faveur de la déségrégation le montre, était plutôt quelqu'un qui était pour la reconnaissance des droits des Noirs, estimait qu'une personne est une personne, etc., mais qui avait en lui, vraiment dans son sang, toute cette matière du Sud pour qui l'esclavage est encore là et la perte de la guerre de sécession, la défaite pendant la guerre de sécession a été une blessure charnelle immense, et c'est vraiment un des traits les plus constitutifs du Sud. Et je pense que c'est pour ça qu'on a ces choses comme deux fronts d'air qui se rencontrent dans le livre avec la même puissance, c'est-à-dire un fond de racisme qu'il a en lui et qu'il ne cherche pas à camoufler. Et les seuls personnages qui s'en sortent quand même un peu par le haut dans ce livre, ce sont les Noirs, la famille.
Et c'est comme ça qu'il faut entendre la sortie de Toni Morrison dans cette archive de 2012, grande autrice américaine, qui a écrit notamment ce grand livre Beloved. Il prend les personnages de personnes noires au sérieux, contrairement à d'autres. C'est comme ça que
je pense. Et d'ailleurs, au fil de son œuvre, on verra que les personnages noirs gagnent en épaisseur et que son langage perdra les mots les plus injustes.
Yannick Enel, sur cette question-là.
Oui, d'ailleurs, la narratrice, parce que finalement, il y en a une à la fin qui semble plus posée. Elle est noire, c'est Dilsé. C'est la, j'allais dire la nourrice, non, c'est la
gouvernante.
La gouvernante,
ouais, la gouvernante,
voilà, celle qui s'occupe de tout.
De la maison, quoi.
Et elle nous mène à une messe de Pâques absolument prodigieuse. C'est rare, une messe comme ça, sur 5 pages, qui devient un gospel, avec ce prêtre qui n'a l'air de rien. Tout le monde se demande qui est ce Minus, en fait, et qui s'exalte. Il y a une glorification, l'air de rien.
De sa voix, presque.
De sa voix. Et à travers lui, des Noirs qui sont les seuls à tenir, j'allais dire métaphysiquement, par rapport à l'affaissement des Blancs de cette famille, qui ont tous quelque chose à se reprocher, et qui sont tous pris dans la déréliction d'une forme de décadence du Sud américain. Et la grande noblesse... C'est beau que vous ayez passé la voix de Toni Morrison, parce que je pensais à elle et à Beloved en lisant votre traduction à la fin. Enfin, Dilsé et tout ce qui se propage, elle dit, elle répète des psaumes. Enfin, il y a une immense dignité, voilà, pour parler comme Orwell. Et à la fin, c'est étrange parce que c'est ce qui est diffusé, comme ça, à l'air de rien. C'est pas un message pour autant de la part de Faulkner, et j'aime beaucoup que vous parliez de toutes ces ambiguïtés. Enfin. Mais il y a, c'est pas non plus un apaisement, mais on se dit, voilà quelqu'un, voilà une femme qui porte les choses. Et c'est une noire, une servante, qui a été esclavagisée, parce qu'il faut le dire, et c'est elle qui finit le livre.
Ce qui est en 1929.
C'est fou, c'est complètement fou. Ouais.
Elle finit le livre, et elle finit d'ailleurs l'appendice, puisque les serviteurs noirs sont... Une fois qu'on a vu vraiment toute la déréliction,
Compson,
comme vous dites, de la famille Compson, on termine sur les serviteurs noirs, et on a leur avenir à eux, alors que les Compson, on s'arrête à la fin du livre.
Juste, oui.
Le Book Club continue.
France Culture, le Book Club, Marie Richeux.
Alors, on a parlé de la dimension évidemment très importante, sonore dans ce texte, Le bruit et la fureur, dès le titre. Il y a aussi des musiques qui passent, un fameux concert, un orchestre, une chanson. Bon. Et d'habitude, dans le jeu du book club qui s'appelle Le grand jeu des pages musicales, on va chercher dans le roman dont on traite, mais c'était très difficile d'être juste pour aller choisir la musique, de ne pas faire de faux pas et d'aller vraiment trouver les chansons ou les évocations musicales dont il était question. Donc, on est allé chercher dans les textes que nous envoient les auditeurs et auditrices. C'est Christina qui a joué aujourd'hui avec nous, qui nous a envoyé un mail, lebookclub@radiofrance.com, et elle a choisi un extrait d'un autre livre. C'est un livre qui s'appelle Camille va aux anniversaires, paru en 2024 aux éditions Les Avrils, et qui est signé d'Isabelle Boissat. André a une vieille Volvo Break, celle qu'on voit dans tous les films d'auteurs français. La seule voiture qui vieillit bien. Je le trouve beau. Lorsqu'il met la clé dans le contact, une chanson que je n'identifie pas joue ses dernières notes. Et puis, je reconnais immédiatement les premières de la chanson suivante. Leonard Cohen, I'm Your Man. Je me liquéfie sur le siège en velours beige. Leonard chante de sa voix d'outre-tombe. If you want a lover, si tu veux un amoureux, je ferai tout ce que tu me demanderas. Et si tu veux une autre sorte d'amour, je porterai un masque pour toi. Et si tu veux un partenaire, prends ma main. Mais si tu veux juste te barrer en voiture avec moi, tu sais que tu peux. Je suis ton homme. Cette chanson est tellement romantique que je suis très embarrassée. Je veux tout, un amoureux, un partenaire, un tour en voiture, un autre genre d'amour. Il me demande si je connais le coin. Il s'excuse pour les poils de chien. Il y a un teckel poil dur, pas encore épilé, qui en met partout. Il y aura un homme avec un chien. Plus exactement, il dit « on a un teckel ». Au premier feu rouge, je me demande si l'on nous imagine père et fille. Mais personne ne nous regarde et il fait presque nuit. I'm your man. If you want a boxer, I will step into the ring for you. And if you want a doctor, I'll examine every inch of you. If you want a driver, climb inside. Or if you wanna take me for a ride, you know you can. I'm your man. Are the moons too bright? The chains too tight? The beast won't go to sleep. I've been running through these promises to you that I made and I could not keep. Ah, but a man never got a woman back, not by begging on his knees. Or I crawl to you, baby, and I fall at your feet, and I howl at your beauty like a dog in heat, and I clog your heart and I'd tear at your sheet. I'd say, please, I'm your man. Il y a des livres qui, eux, sont vraiment des chefs-d'œuvre. Vous ouvrez Le bruit et la fureur de William Faulkner, publié aux États-Unis en 1929, traduit une première fois en 1938, que Charles Recourcet vient de retraduire génialement aux éditions Gallimard. Et vous avez beau l'avoir déjà lu il y a 30 ans, vous êtes stupéfait, terrassé de joie. J'ai plein de problèmes, j'ai trop de travail, je suis épuisée. Et pourtant, depuis 10 jours, une voix m'accompagne, un archipel chaotique et fascinant de souffle coloré. C'est lui qui compose le prodige narratif et poétique de ce livre. C'est cet article qui nous a donné envie de vous entendre, Yannick Hennel, à notre table pour évoquer Le bruit et la fureur. Merci beaucoup d'avoir été avec nous.
Merci à vous.
Vous reviendrez
merci.
Pour parler de vos livres.
Parfait.
Et merci à vous, Charles Recourcet, d'être merci venu de parler de votre merci. Travail de traduction aux éditions Gallimard. Je laisse le soin du générique à Moussa.
Au saut aujourd'hui, c'était Soufiane Hatchib. À la réalisation, Vivian de Meyer. Merci à toute l'équipe et particulièrement aujourd'hui à Jeanne Aléos. Le Book Club, c'est une aventure collective et elle se poursuit sur Instagram. Je suis Moussa, en 3e au collège Jean Massé de Clichy et en stage cette semaine à la radio.